Je suis né en 1933 d'une famille très anticléricale. Mes parents étaient baptisés, l'un catholique, l'autre orthodoxe, mais ils avaient rejeté toute religion. Et donc, je n'ai pas été baptisé dans l'enfance. J'ai été élevé dans des écoles laïques, bien sûr, lycée laïque. Et ensuite, j'ai fait mes études de médecine à Paris, dans une optique d'ailleurs tout à fait conforme à celle de ma famille, c'est-à-dire, mon père était médecin aussi d'ailleurs, accoucheur, dans une optique scientiste, matérialiste, athée. Lorsque j'ai été reçu à l'internat de Paris en 1959, j'étais tout à fait en harmonie avec un livre qui venait de sortir, celui de Jacques Monod, qui était prix Nobel de biologie, c'était quelqu'un d'éminent, mais qui avait écrit un bouquin qui s'appelle « Le hasard et la nécessité », dans lequel il affirmait que la vie était apparue sur la Terre par hasard, par la rencontre de quelques molécules d'acides aminés. J'adhérais donc totalement à cette hypothèse, qui n'est jamais qu'une hypothèse. Et puis, j'adhérais aussi aux théories évolutionnistes de Darwin, bien entendu. Alors, après avoir fait mon internat, je suis devenu assistant à la faculté à Paris et j'ai fait une formation en chirurgie. Et je me suis installé à Rennes en 1966 dans une grande clinique comme chirurgien, urologue et gynécologue. Alors, l'urologie... C'est de la plomberie, hein. Ça ne débouche pas sur des problèmes métaphysiques. Mais par contre, la gynécologie ouvre des portes, évidemment, sur la morale. Maintenant, on dit l'éthique, parce que employer le mot morale est un peu indécent. Donc, problème éthique, évident. Et du moins pour moi, c'était pas tellement compliqué, puisque mon optique était en faveur de la liberté. Et donc, dès mon installation, outre la chirurgie, bien entendu, je pratiquais toute forme de contraception, des stérilisations féminines et masculines, beaucoup plus souvent féminines que masculines, d'ailleurs, parce que les hommes n'aiment pas beaucoup qu'on touche à leurs petites affaires, alors ils veulent bien stériliser leurs femmes, mais pas se faire stériliser eux-mêmes. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis, d'ailleurs. Et... Donc, je militais aussi pour la libéralisation de l'avortement. Donc, un an après mon installation, d'ailleurs, un franc-maçon, Neuwirth, a réussi à faire passer une loi sur la contraception artificielle. Et bien entendu, moi, je m'en réjouissais. En mai 68, comme beaucoup, j'ai été un peu déboussolé. Et en plus, j'étais en instance de divorce. Et un ami m'a dit, tu devrais trouver une famille spirituelle. Spirituelle, ça ne voulait pas encore dire grand-chose pour moi. Et il m'a dit, je te vois très bien dans la franc-maçonnerie, ça correspondrait très bien à tes conceptions philosophiques. Et par conséquent, pendant qu'il y avait des barricades au quartier latin en mai 68, je me suis retrouvé dans le bureau du grand maître du Grand Orient de France à rue Cadet. Alors le grand maître Paul Anxionnaz m'a fort bien reçu. J'avais déjà les idées conformes à celles de la maison, donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Et après les différentes enquêtes qui sont relativement longues, j'ai donc été initié au premier grade d'apprenti au début de l'année 70. Alors, bien sûr, cette initiation, je ne vais pas la décrire intégralement, ça serait beaucoup trop long, il faudrait presque la moitié de la soirée, mais il y a quand même des choses qui surprennent un profane, même s'il est matérialiste, même s'il est athée, dans la mesure où ça ressemble un petit peu aux initiations des animistes dans les peuplades primitives. On est soumis à des épreuves de l'air, de l'eau, de la terre, du feu. Et bon, il y a quelques quelque stress pendant l'initiation. Alors, j'ai gravi rapidement les différents échelons. De toute façon, on reste obligatoirement apprenti pendant un an, pendant lequel on n'a pas le droit de parler. On a un an de silence obligatoire.